Bonjour et bienvenue dans Les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques parfois atypiques, en tout cas variés. Cette interview est réalisée par Oscar et je vous présente son invité, Mathieu Vidard, qui va nous raconter son parcours.
L'interview va porter sur trois sujets. Son parcours et l'histoire de l'émission, quels sont les nouveaux enjeux de la communication scientifique et comment vulgariser les sciences. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'interview.
Merci beaucoup d'être venu pour cette interview organisée par Je Science Donc Je Suis. Vous avez animé plusieurs émissions de vulgarisation scientifique et notamment La Tête au Carré pendant plus de 10 ans. Et maintenant, vous avez fait La Terre au Carré. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre parcours et sur ce qui vous a mené aux sciences ?
Alors, les sciences étaient vraiment le hasard le plus total dans ma vie parce que j'étais pas du tout préparé à ça. J'ai fait plutôt des études littéraires, donc j'ai passé un bac A à l'époque. Et puis ensuite, j'ai commencé la radio assez jeune, en 1994, hein, parce que j'aimais ça. C'était vraiment ma passion, c'était d'interviewer des gens, mais je pensais absolument pas à la science. Donc j'ai fait au départ, j'ai fait beaucoup de travail dans les locales de Radio France, hein, où j'ai animé des programmes qui étaient assez diversifiés. Il n'y avait pas forcément de thématiques, on avait plusieurs rendez-vous. Et puis quand je suis arrivé à France Inter en 2004, j'ai animé les petits matins du week-end. Puis ensuite, j'ai fait une émission le matin à 10h qui s'appelait Café Bazar, qui est une émission plutôt de dossiers sociétaux, donc j'avais des auditeurs en ligne, puis on parlait de tout un tas de sujets. Parmi ces sujets-là, de temps en temps, j'avais un petit peu de science, mais vraiment pas beaucoup. Et puis donc en 2006, la direction de France Inter m'a appelé en me proposant d'animer une émission scientifique tous les jours, à 14h. C'était à moi d'imaginer ce que ça pouvait être. Et donc j'étais assez surpris, parce qu'évidemment, je pensais ne absolument pas avoir le niveau, et même d'être très très nul, puisque j'ai eu un au bac en maths, donc c'est pour vous situer un petit peu où j'en étais. Et puis voilà, on a réfléchi à un magazine d'actualité scientifique. On voulait quelque chose qui soit à la fois le reflet de la recherche en cours, hein, et puis qui soit aussi assez près de l'actu quotidienne de la science, parce qu'il y a énormément de choses qui se passent en science tout le temps, des publications qui paraissent tous les jours, des livres, des expos, etc. Donc on a imaginé ce programme d'une heure, dans lequel en plus on pouvait parler vraiment de toutes les sciences. Donc ça c'était vraiment chouette dès le départ, puisqu'on avait autant les sciences dures que les sciences molles, les sciences humaines. Donc ça nous ouvrait quand même un champ, parce qu'il fallait fournir de la matière tous les jours sur l'antenne pendant une heure. Et c'est comme ça qu'a démarré donc La Terre au Carré en 2006. L'émission a duré 13 ans. Et donc depuis cette année, je fais un nouveau programme qui s'appelle La Terre au Carré, qui est une déclinaison, on va dire, environnement, planète, écologie, de ce qu'a pu être La Tête au Carré. Donc avec quand même pas mal de chercheurs, parce que c'est vrai qu'on veut garder ce prisme scientifique très très présent, mais on parle uniquement de biodiversité, de climat, d'environnement.
D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à passer à la Terre au Carré, du coup ?
Ben, là aussi, ça a été vraiment le hasard. C'est la direction de France Inter qui, cette année, m'a proposé ça parce qu'ils se sont aperçus qu'il y avait énormément de sujets environnement qui marchaient très très fort auprès des auditeurs. On avait fait deux journées sur le plastique, entre autres, cette année sur Inter. Et on a eu une foule d'appels au standard, en particulier pour l'émission Le Téléphone Sonne, mais vraiment dans des proportions qui n'avaient jamais été vues. Et puis, il y a eu la démission de Nicolas Hulot, il y a eu les marches pour le climat. Donc, tout ça a créé un contexte tout à fait favorable pour qu'on puisse imaginer faire une émission quotidienne autour de l'environnement.
Et donc, c'est vraiment une thématique qui intéresse beaucoup par rapport aux autres sciences.
En tout cas, on a l'impression qu'aujourd'hui, ça touche vraiment tout le monde, quoi. On s'en emparait de ces sujets-là. On le voit bien, même au niveau des élections européennes, il y a eu un vote très, très fort pour l'écologie. Ça irrigue absolument tous les champs de la société. Le travail, notre façon de nous alimenter, les industries. Donc c'est tellement fort aujourd'hui que c'est quasiment incontournable, quoi. Et on voit bien sur la campagne, par exemple, pour les municipales, à Paris, entre autres, et partout en France, ça va être un thème absolument primordial. Il y a un sondage Ipsos là, qui est sorti cette semaine et qui montre pour la première fois que la préoccupation première des Français, c'est l'environnement, c'est l'écologie. Donc ça dit quelque chose de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est tout à fait particulier, et il y a des figures comme Greta Thunberg qui incarne ça très très bien, et qui sont aussi très fédératrices autour de ce sujet.
Et j'ai lu des articles qui disaient que justement, parfois il y avait des effets de lassitude par rapport au changement climatique et au réchauffement. Ouais. Est-ce que vous vivez ça aussi, ou est-ce que c'est quelque chose que...
Alors pour l'instant, heureusement je ne suis pas encore touché par la lassitude, heureusement parce que l'émission n'est que 3 heures.
Pas vous personnellement, mais est-ce que vous ressentez ça au niveau des auditeurs aujourd'hui?
Pour l'instant on n'a pas ce type de retour, mais en tout cas c'est à nous aussi d'imaginer une émission qui soit très diversifiée. dans sa proposition, qui ne soit pas non plus anxiogène, c'est-à-dire qu'on ne va pas attirer les gens vers quelque chose de catastrophiste, de fin du monde, d'apocalypse, parce que sinon on va tous se tirer une balle dans le pied, quoi, ou dans la tête plutôt. Mais, donc on essaye voilà, de proposer des sujets qui soient très éclectiques, et moi je profite de la science justement pour aller explorer des disciplines où, comme dans La Tête au Carré, en fait, on est là pour suivre aussi un petit peu l'évolution des recherches des chercheurs. Donc on peut recevoir aussi des artistes, des écrivains. Voilà, tout ça, ça nous permet de parler de l'environnement, mais au sens très très large, pour aussi nous faire en sorte que tous les jours dans le programme, on ait de quoi se changer un peu aussi les oreilles, quoi, parce que sinon ça va être effectivement un peu lassant.
On peut facilement écouter l'émission, mais on ne sait pas tellement ce qui se passe derrière les micros. Mm-hmm. Comment ça se passe donc pour organiser une émission comme La Terre au Carré au niveau de l'organisation du travail?
Il faut une grosse équipe, hein, c'est notre cas, donc on est assez nombreux à travailler sur l'émission. J'ai trois attachés de production qui s'occupent de trouver des sujets et d'appeler les invités pour faire des pré-entretiens avec eux. J'ai un rédacteur en chef qui coordonne absolument tout l'ensemble de l'émission, depuis les reportages aux chroniques, en passant par là aussi les sujets, les publications. J'ai une réalisatrice qui s'occupe, elle, un petit peu plus de la mécanique d'antenne, c'est-à-dire que c'est un peu le chef d'orchestre pendant le direct, hein, pour faire en sorte que tout se passe bien. Donc elle a un conducteur en main, et c'est elle qui fait en sorte que voilà, les jingles, les disques, les interviews partent à la bonne heure. Et puis j'ai des chroniqueurs qui sont là aussi tous les jours avec moi, des reporters. Donc c'est vrai que c'est une équipe qui... Mais c'était aussi un souhait de France Inter, c'était de donner des moyens à cette émission pour que, par exemple, des reporters puissent partir à l'étranger, tourner des sujets en forêt amazonienne, sur un glacier en Islande. Donc c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un petit peu de moyens pour cette émission. Et là aussi, ça participe à la variété des sujets qu'on peut proposer aux auditeurs. Donc voilà, c'est une équipe qui est maintenant bien rodée, parce que c'est des gens avec lesquels moi je travaille depuis assez longtemps. Il y a quelques nouveaux qui sont arrivés. Ça permet voilà, d'avoir une mécanique d'antenne pour que tous les jours, on puisse proposer cette émission.
D'accord. Et ça se passe comment, du coup, au niveau de la préparation des sujets?
Ben là, c'est la même chose. Notre travail au quotidien, c'est de pouvoir prévoir la programmation de l'émission, donc d'avoir au moins 2 semaines d'avance. Parce que chaque jour, j'ai quand même 3 invités dans l'émission. Mmh. C'est énorme. Donc il faut en trouver. Hein. 3 invités multipliés par le nombre d'émissions, multipliés par le nombre de semaines et de mois dans l'année. Je crois, on avait fait le calcul assez rapidement, je crois qu'on doit être aux alentours de 700 invités à trouver dans l'année.
D'accord.
C'est une masse importante. Et puis là aussi, il faut trouver des sujets quand même très très différents. Cela dit, je suis assez rassuré, parce que c'est vrai que l'environnement draine énormément de sujets, de disciplines, donc on a vraiment le choix. Donc voilà, notre travail, c'est ça, c'est de trouver des sujets, de lire des livres, de s'intéresser à ce qui se passe aussi dans le domaine culturel, d'avoir des publications scientifiques, de tenir au courant de toute l'actualité, de regarder l'agenda aussi des grands rendez-vous, comme en ce moment les rendez-vous climatiques, qui permettent vraiment de faire des émissions aussi sur le sujet. Donc voilà, on est dans toutes les sources possibles et imaginables pour faire en sorte que cette émission, elle existe, quoi.
D'accord, et en plus vous faites des sujets qui sont quand même très d'actualité, donc c'est ouais. assez difficile de pouvoir programmer avec beaucoup d'intervention.
Alors c'est ça, parfois on peut rebondir sur l'actualité et changer un sujet. Par exemple, la première émission qu'on a faite, c'était sur la forêt amazonienne, sur les incendies en Amazonie. C'était pas prévu du tout quand on avait commencé à programmer l'émission, mais ça s'est imposé. Et pour nous aussi, c'était un symbole assez fort de pouvoir commencer La Terre au Carré sur ce sujet-là, avec la forêt amazonienne qui incarne aussi bien la nature et la biodiversité. La biodiversité d'ailleurs végétale, animale, humaine. Et donc, voilà, on a commencé comme ça. Et puis c'est vrai que de temps en temps, quand il y a un sujet qui nous semble important, on peut modifier l'émission, la bouleverser un petit peu. C'est le cas aussi, par exemple, pour la manifestation pour le climat, là. On a chamboulé le programme pour être en direct de la place de la Nation. C'était pas prévu au départ, mais on s'est dit que vraiment ce serait la configuration idéale pour nous, pour pouvoir le vivre au plus près. Voilà.
Ok. Sinon, donc, je me demandais, il y a pas mal d'initiatives qui mélangent les sciences à d'autres disciplines, par exemple des expositions qui mélangent art et sciences et tout ça. Mm-hmm. Est-ce que vous, ça vous intéresserait? Et est-ce que, comment vous... Que pensez-vous de ces initiatives?
Ah ben moi j'adore ça, au contraire, je trouve que c'est... D'abord on a un rendez-vous qui est quasiment dédié à ça tous les jours, qui s'appelle l'invité découverte. On est très ouvert justement sur les liens entre la science et les artistes, parce que c'est vraiment des rencontres qui en général donnent naissance à des choses assez originales, et puis qui créent une dynamique aussi autour de la science ou de l'environnement. Donc ça permet voilà, de proposer des formes différentes pour parler de ces sujets-là. Et souvent, moi, je m'en suis aperçu dans l'émission, les rencontres entre les artistes et les scientifiques, ça matche bien, quoi. Ils ont toujours des choses à se raconter. Et les scientifiques sont aussi souvent très créatifs, donc ils sont sensibles à l'art. Et les artistes sont souvent aussi tout à fait intéressés, passionnés par les disciplines de la science. Donc ça fait des choses, ça fait des bonnes alchimies pour l'émission. Moi, j'adore ça. Ouais.
Et du coup, il y a d'autres thématiques qui vous intéressent en dehors des sciences que vous voudriez mettre en avant, enfin, pour la Terre au carré ou d'autres émissions éventuellement.
Bah, de toute façon, après, moi, c'est vrai que maintenant, je suis quand même dans ce domaine de la science ou de l'environnement, mais j'adore la musique, par exemple. Donc, animer une émission musicale, ça aurait pu aussi m'intéresser, une émission culturelle, bien sûr. Mais c'est vrai que maintenant, j'aime profondément aussi ce domaine de la science, il m'intéresse beaucoup. Puis j'aime les gens que je rencontre grâce à l'antenne, les chercheurs qui viennent, les scientifiques que je peux croiser, toutes les personnes qui sont impliquées passionnément, profondément dans les sujets qu'ils défendent. Et ça fait qu'à l'antenne, ça donne des rendez-vous intéressants aussi pour moi. J'apprends tout le temps des choses. Et puis j'aime la relation que je peux avoir justement avec ces personnes-là. Parfois c'est différent avec des artistes qui sont beaucoup plus rompus à l'exercice. L'interview, c'est pas pareil. Mais moi, j'aime justement la proximité qu'on peut avoir avec un chercheur pour être directement dans le sujet, dans la connaissance, et je trouve que c'est enrichissant, c'est vraiment intéressant.
Et du coup, est-ce que le fait d'avoir animé ces émissions, ça vous a fait changer d'avis vis-à-vis de la science ou...
Ben en fait, j'avais pas tellement d'idées sur la science avant de faire La Tête au carré, parce que c'était vraiment pas mon domaine, et puis j'ai l'impression que j'étais nul dans ces domaines-là, et que voilà, ça faisait pas vraiment partie de ma vie, et j'ai tout découvert grâce à l'émission en fait. Enfin, j'ai découvert beaucoup de choses grâce à l'émission. Il me reste encore plein de choses à découvrir. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu une vision tellement large de toutes les disciplines possibles et imaginables que là aussi, c'est une opportunité pour moi, à titre personnel, vraiment formidable. Et ça a été une rencontre avec la science qui finalement m'a révélé quelque chose que j'ignorais et qui me passionne aujourd'hui. Donc je trouve que c'est une chance folle. C'est vraiment une belle rencontre.
Et du coup, vous interviewez régulièrement des chercheurs. Est-ce que vous auriez également aimé faire de la recherche après les différentes émissions?
C'est vrai que maintenant, vu mon grand âge, ce serait difficile de commencer maintenant, mais si j'avais dû choisir, par exemple, dans les sciences, il y a plein de domaines qui m'intéressent. Tout ce qui concerne le cerveau, par exemple. J'adore la géologie, j'adore la primatologie. J'aurais bien aimé faire des disciplines de terrain. La volcanologie, par exemple, tout ce qui touche à la Terre, m'intéresse beaucoup. Donc, pourquoi pas, dans une autre vie peut-être, mais bon, maintenant, voilà, ma vie, elle est derrière le micro, à rencontrer des gens, à les interviewer, et ça me plaît énormément.
C'est pas mal aussi pour pouvoir avoir plein de sujets différents à étudier.
Et je trouve que c'est une chance folle, parce que j'ai la chance de pouvoir inviter les chercheurs qu'on repère avec l'équipe, qui nous intéressent et pour lesquels les sujets nous intéressent. Donc tous les jours, a priori, quand même, j'arrive au micro en me disant, chouette, quoi, je vais pouvoir poser des questions à quelqu'un qui m'intéresse. Donc ça, c'est vraiment un luxe. C'est une chance folle que j'ai tous les jours de faire ça.
Comment est-ce que vous faites donc, pour sélectionner les personnes qui vont intervenir?
Alors ça, le travail de sélection des invités, c'est hyper important. C'est même je pense que le succès de l'émission, il repose là-dessus. C'est-à-dire sur la qualité des gens que je reçois à pouvoir vulgariser la science. Parce que sinon, on perd tout le monde. Donc la qualité que je demande, moi, aux chercheurs, c'est de pouvoir parler simplement, sans exclure évidemment le fond, mais d'essayer de trouver quand même des mots pour les auditeurs qui, eux, ne sont pas en grande majorité des scientifiques. 95%, je pense, des gens qui écoutent La Tête au carré ou La Terre au carré ne sont pas des gens forcément dans le domaine de l'environnement ou de la science. Donc, il faut vraiment que les scientifiques fassent cet effort de se mettre à la portée de tous et à ma portée aussi, puisque moi, je ne suis pas scientifique. Donc, en faisant cet effort d'explication et c'est sur cette qualité-là qu'on invite les gens, c'est-à-dire leur capacité à vulgariser et à expliquer au plus grand nombre. Donc quand on ne connaît pas quelqu'un, ben non, on se renseigne, on va sur Google, on va voir s'il y a des vidéos, si la personne sait parler convenablement. Et parfois, ça arrive que ce ne soit pas le cas. Donc dans ce cas-là, on préfère ne pas inviter la personne et en choisir une autre. Parce que pour l'antenne, pour la radio, vous, en tant qu'auditeur de radio, si la personne ne vous captive pas, vous allez tout de suite changer de poste, parce que voilà, il n'y a rien qui va vous retenir. Donc on est retenu par le récit qu'on nous fait. Donc c'est extrêmement important d'avoir des gens qui savent raconter des histoires.
D'accord. Et sinon, donc, comment est-ce que vous faites pour choisir d'inviter sur des thématiques qui peuvent être un petit peu débattues encore dans le milieu scientifique?
C'est-à-dire, vous pensez à quoi?
Je ne sais pas, pour avoir par exemple des contre-arguments, ce genre de choses sur des hypothèses qui sont encore un peu débattues.
Alors soit on choisit de faire des débats, mais ce qui est souvent difficile et presque un peu stérile, c'est-à-dire qu'au début, j'ai fait des débats, par exemple, sur les OGM, la génétique, le nucléaire, sur des sujets plutôt un peu clivants, ou sur les nanotechnologies, par exemple. Et c'est compliqué parce que les gens ont du mal finalement à communiquer ensemble. Chacun campe sur ses positions, sur ses idées. Donc c'est souvent des rencontres un petit peu stériles. Donc si dans un domaine il y a différentes hypothèses qui sont proposées, on peut se dire que un jour on fait une émission avec un chercheur qui nous présente son hypothèse, et puis un autre jour on en fera avec un autre. Voilà, on est plutôt assez ouvert. Mais bon. Les sujets s'y prêtent pas non plus tout le temps, donc il n'y a pas que des sujets clivants, donc voilà, il y a des choses sur lesquelles quand même la communauté scientifique est à peu près d'accord, dans son grand ensemble, donc c'est plus simple, quand il y a un consensus par exemple, bon, c'est plus facile de parler d'un sujet sur la création de l'univers, sur voilà, le Big Bang, bon, même s'il y a des différents scénarios qui sont possibles, il y a quand même aujourd'hui une espèce d'accord commun, collectif, quoi, sur la question, donc c'est plus simple.
Notre interview de Mathieu Vidard est terminée pour cette première partie, mais on le retrouvera la semaine prochaine, toujours pour parler de vulgarisation scientifique. En attendant, n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et éventuelles questions sur Twitter, Instagram, Facebook, ou à envoyer un mail à Je Science Donc Je Suis. Pour écouter nos autres épisodes des Voix de la Science et nos billets de vulgarisation scientifique Flash Science, et découvrir toutes les activités de l'association Je Science Donc Je Suis, vous pouvez vous rendre sur notre site internet. Toutes nos coordonnées sont dans la description de cet épisode. Merci infiniment à Mathieu Vidard pour le temps qu'il nous a accordé et au campus Pierre et Marie Curie de Sorbonne Université qui nous a permis d'utiliser ses locaux pour l'interview. Sophia Richard a réalisé cette interview menée par Oscar Nodet-Langlois et montée par Zayed Bousraf et Saouda Dorin. A bientôt dans Les Voix de la Science.